Neuf femmes, qui n'étaient guère connues que sous des noms de guerre, composaient lors de l'entrée d'Élisa le personnel de la maison. Marie Coup de Sabre, une corpulente brune, légèrement moustachue, devait son surnom à une estafilade qu'elle avait reçue dans une rixe. Séduite dans son pays par un dragon, elle l'avait suivie à l'état vagant de ces femmes qui s'attachent à un régiment et campent à la belle étoile autour de la caserne, nourrie la plupart du temps d'un morceau de pain de munitions apporté sous la capote. Plus tard, elle avait vécu, et vécu seulement, dans des maisons de ville de garnison. Marie Coup de Sabre représentait le type parfait de la fille à soldat. Pour elle, les bourgeois, les Pékins étaient comme s'ils n'existaient pas. Il n'y avait d'hommes à ses yeux que des hommes en uniforme. Toutefois, pleine d'un certain dédain pour le fantassin et mettant son orgueil à ne pas frayer avec l'infanterie, il lui semblait déroger en acceptant le mêlé d'un troubade. La tête, les sens de Marie Coup de Sabre ne se montaient qu'en l'honneur de la cavalerie. Seuls les hommes à casque et à latte lui apparaissent, c'est comme l'aristocratie guerrière, uniquement digne de ses faveurs et de ses complaisances. La conversation de Marie Coup de Sabre était habituellement émaillée de locutions militaires. Et toujours, après deux ou trois éclats de voix baritonnantes avec lesquels elle cherchait à ressaisir la logique avinée de ses idées, elle commençait ses récits par cette phrase. « Mais ne nous entortillons pas dans les feux de fil. Pour l'or, Glaé, par abréviation d'Aglaé, la femme aux bras tatoués et aux beaux yeux, était une faubourienne de Paris. Elle avait commencé, disait-elle, par faire Pygmalion. Mais tu étais employé dans les magasins. Non, non, je me promenais devant et j'avais tout à côté une chambre que je louais 5 francs, 6 heures à minuit. » Glaé racontait alors qu'elle avait habité ensuite la rue des Moulins, puis le quartier latin, mais qu'à tout moment, pour des riens, pour des bêtises, soufflée par les agents de police et mise à l'ombre, elle avait renoncé à sa liberté. Glaé apparaissait comme l'intelligence et la gaieté de l'endroit, avec une élégance dans le corps d'ancienne danseuse de bal public. Augustine venait aussi du quartier latin. Elle avait fait successivement la botte de foin, les 4 vents, la barrière du Maine. Bon, cette petite femme, on l'aurait cru enragée. Du matin au soir, il sortait d'elle un dégoisement de sottises, un vomissement d'injures, un engueulement enroué qui avait quelque chose du jappement cassé de ces molosses assourdissants que promènent dans leur voiture les garçons bouchers. Du reste, Augustine avait le physique d'un dogue, une figure courte et ramassée, de petits yeux bridés, des pommettes saillantes, un nez écrasé, des dents que la lime avait séparées qui ressemblaient à des crocs. Augustine tenait l'emploi d'orateur poissard de la maison. Madame, qui manquait de platine, la mettait en avant dans de certaines occasions pour abrutir les payes récalcitrantes. Augustine inspirait un mélange d'admiration et de crainte aux autres femmes qui la laissaient jouir sans conteste d'immunité particulière. On l'appelait « Red Allen ». Peurette, personne n'avait jamais su si c'était un surnom ou son vrai nom, une toute jeune fille, presque une fillette. Elle avait un minois grignotant de souris, de petits yeux noirs effarouchés, et continuellement dans le corps le remuement qu'aurait pu y mettre un sang de puce. Peurette ne voyait dans son métier que cela, la possibilité de se faire payer des consommations, beaucoup de consommations. Rien n'était plus drôle que de la voir au café, avec les coups de coude solliciteurs, la voix chuchotante des enfants qui mendient tout bas quelque chose, implorer de l'homme auprès duquel elle était assise, un café, une grenadine, une bière, des marrons, n'importe quoi, se mangeant ou se buvant. Et aussitôt la chose carottée et avalée, de passer à une autre avec la convoitise entêtée d'un désir de gamine. Rien ne pouvait assouvir cette soif et cette capacité de consommation. on eût pu lui offrir dans une nuit tout le liquide du comptoir qu'elle n'eût jamais dit assez. Perrette n'avait pas non plus sa pareille pour faire disparaître dans l'entre-deux de ses seins tous les petits paquets de tabac traînant sur les tables. Gobe la lune. Le surnom de cette prostituée d'un certain âge qui n'avait pas de nom proclamait sa faiblesse d'esprit. L'exploitation à tout jamais consentie de son corps par une autre dénote chez une femme une absence de défense dans la bataille des intérêts. La femme qui a un peu de vice s'émancipe tôt ou tard de la tutelle d'une maîtresse de maison et travaille pour son compte. Mais la femme qui ne sait pas sortir du lupanar est toujours un être inintelligent. Les médecins qui ont la pratique de ces femmes vous peignent l'interrogation stupide de leurs yeux étonnés, de leurs bouches entrouvertes à la moindre parole qui les sort du cercle étroit de leurs pensées. Ils vous les montrent vivant dans un nombre si restreint de sentiments et de notions des choses que leur état intellectuel avoisine presque le degré inférieur qui fait appeler un être humain un innocent. Eh bien, parmi les basses intelligences de la maison, Gobe la Lune était encore une intelligence au-dessous des autres. On pouvait se demander si elle avait un cerveau ayant le poids voulu pour qu'il s'y fît la distinction du bien et du mal, si elle avait une conscience ou pouvait se fabriquer un reproche ou un remords, si enfin l'espèce d'idiotie, toujours souriante qu'elle était, même au milieu des mauvais traitements, était responsable de sa vie. Cette infériorité faisait de Gobe la Lune le souffre-douleur, le martyr de l'endroit. Les femmes, non contentes des féroces mystifications qu'elle lui faisait subir toute la journée, se donnaient le mot pour la livrer, histoire de rire, aux ivresses les plus mauvaises, aux amours les plus inclémentes. Mélie, dite la chenille, avait été d'abord la petite fille vendant le jour aux abords de la halle, la marée, la noix verte, vendant le soir dans les rues désertes du papier à lettres, et bien avant d'être formée, déjà dépravée, pourrie, gangrenée. Ramassée tous les 6 mois par la police et retirée par un père complaisant, tantôt du dépôt où elle corrompait les petits garçons, tantôt de Saint-Lazare après une guérison plâtrée, Mélie était de la race perverse de ces finasses de Paris qui sèchent de n'être point assermentés et qui, détestant les jours qui les séparent de l'accomplissement de leur 16e année, se fabriquent, ainsi que d'autres se font de faux titres d'honneur, se fabriquent dans une infâme gloriole de fausses cartes de filles. La seconde jeunesse de Mélie s'était passée à Vincennes. Une longue créature, blondasse, larveuse, fluante, qui se terminait par une toute petite tête en boule. Le cheveu rare, les yeux bleus de faïence entre des paupières humoureuses, un petit nez en anse de pique, pareil au suçoir que les ivoiriers japonais donnent à la pieuvre, de gros bras martelés de rougeur, avec au bout des mains des doigts plats et carrés. Telle était Mélie, dite la chenille, dont la peau mettait de suite au linge qu'elle touchait une crasse saumonée, et dont la parole, qu'on n'entendait pas plus qu'un souffle enrhumé, paraissait frapper la voûte sourde d'un palais artificiel. La Cérès, ainsi baptisée par un caporal qui avait fait ses humanités, arrivait de province. Une grande et fluette fille, à laquelle sa taille plate de paysanne donnait un étrange caractère de chasteté. Sous des cheveux rebelles qu'elle piquait de fleurs, elle avait un beau rayonnement, un rien sauvage du haut de la figure. Peu communicative, et se tenant à l'écart de ses compagnes, toute la soirée, on la voyait, du pas irrité d'un animal en cage, aller d'un bout à l'autre de la salle longue, avec de petits bourgonnements entre les dents, tout en tricotant, d'un air farouche, un bas blanc. Une autre femme faisait l'achalandage et l'amusement de l'établissement. C'était une négresse qui gardait encore mal cicatrisé le trou de l'anneau qu'elle avait porté dans le nez sur la côte de la Guinée. Le large rire blanc de sa face noire Sa parole enfantine, ses gambadantes bamboulas, l'animal lilard et simiesque qui était dans cette excentrique peau humaine, donnait à rire aux hommes et aux femmes. Elle avait été surnommée peau de Casimir, en raison de l'identité de la sensation qu'on éprouve à passer sa main sur la peau d'une négresse ou sur un morceau de drap fin. Il y avait encore, dans la maison de l'avenue de Suffrenne, Alexandrine Phénomène. Alexandrine était une femme de 30 ans, aux chairs lymphatiques presque exsangues. Cette femme avait chaque mois une migraine affreuse et tout le demeurant du temps une susceptibilité nerveuse qui la mettait hors d'elle-même à propos du froissement d'un papier, à propos de la répétition d'un refrain de chanson, à propos de rien et de tout. Cette exaspération habituelle d'Alexandrine ne se traduisait pas, ainsi que chez ses pareils, par des injures, des violences. Donc, tout à coup, sans qu'on sût pourquoi, Alexandrine se jetait à terre et se ramassant sur elle-même, les yeux fermés, les oreilles bouchées de ses deux mains, elle restait des heures en un accroupissement immobile, avec de petits tressaillements lui courant le corps, pendant qu'on disait autour d'elle « Ah, Alexandrie, oh, elle passe sa frénésie !» Dans un orage où le tonnerre tomba deux fois sur l'école militaire, toutes les femmes, folles de peur, s'étaient réfugiées à la cave, cherchant l'obscurité et s'enfonçant la tête dans les recoins les plus noirs. Elisa et Alexandrine se tenaient aplaties dans la nuit d'un entre-deux de portes. Mais là, dans les pleines ténèbres de l'étroit réduit, il sembla à Elisa qu'il continuait à éclairer. Elle ferma les yeux, les rouvrit peureusement, s'étonna de voir une luminosité sur les cheveux d'Alexandrine, instinctivement les toucha, et éprouva comme un picotement au bout des doigts. « Ah, mon chignon !» dit Alexandrine. « Ah, tu savais pas cela, oui, mais c'est comme le dos d'un chat quand on lui passe dessus la main au beau poil. Mais tu n'as rien vu, oh, tu vas voir tout à l'heure. » L'orage fini, les deux femmes montèrent dans la chambre d'Elisa. Les volets fermés, l'obscurité faite dans la petite pièce, Alexandrine assise sur le pied de son lit, Elisa commença à passer son peigne dans les cheveux de son amie qui se mirent à crépiter, à étinceler, à répandre bientôt dans la petite cellule une lueur assez vive pour qu'on vit très distinctement le zouave, le petit pantin à la calotte et au bray rouge, qu'alors dans toutes les maisons à soldats, les filles avaient comme l'ornement de leur glace. Dès lors, tous les jours, sur les 2 heures, Alexandrine montait dans la chambre d'Elisa. Il y avait d'abord, de la part d'Alexandrine, une résistance, des « encore un moment », des mains repoussant faiblement le peigne, un retardement de l'opération, comme d'une chose que la femme aux cheveux électriques redoutait, appréhendait et cependant appelait. À la fin, Alexandrine se laissait faire. Elisa commençait à caresser à la surface, et seulement de l'effleurement du peigne, les cheveux, qui peu à peu devenaient phosphorescents, pendant que la femme peignée se débattait avec de petits bâillements contre le sommeil qui faisait lourde, toute lourde, ses paupières. Le peigne plus rapide, extrait plus profondément dans les cheveux, des cheveux châtains, des cheveux très fins, et à chaque coup, les mèches se redressant, s'écartaient avec des colères sifflantes, du bruit qui jetait des éclairs. À voir jaillir ces étincelles, Elisa prenait un plaisir qu'elle n'aurait pu dire, et elle peignait toujours d'une main plus vite, plus volante. Au bout d'un quart d'heure, la chevelure d'Alexandrine, droite derrière sa nuque, comme l'ondulation d'une longue vague, était une chevelure de feu, divisée par des raies noires, les dents du peigne de corne passant et repassant dans l'incendie pétillant. Alors Elisa, à la fois effrayée et charmée, prenait dans ses mains ses cheveux de flamme, longuement les maniait, les tripotait, les assouplissait, sentant pendant ce De petites secousses électriques lui remontaient du bout des doigts jusqu'au coude. Puis, instantanément, comme sous le coup d'une inspiration subite, elle échafaudait dans la chevelure lumineuse une étrange et haute coiffure où demeurait quelque chose de la vie diabolique de ses cheveux. Alexandrine, elle, se réveillait dans un étirement où son corps semblait se fondre, regardant devant elle dans le noir de la chambre avec des yeux ardents. De cette heure passée ensemble tous les jours, de ces séances bizarres, de ce commerce extraordinaire, de ce dégagement de fluide, il était né entre ces deux femmes un lien mystérieux, comme il en existe dans les métiers qui touchent au surnaturel, une attache semblable à celle qu'on remarque entre le magnétiseur et le somnambule. En ce temps de guerre heureuse pour la France, à cette heure où le dernier de nos pousse-cailloux avait la crânerie, le port conquérant, la belle insolence que donne la victoire, le plus grand nombre des femmes habitant l'avenue de Suffren y étaient attirées par le prestige du fier uniforme, de cet habit de gloire qu'il porte des épaulettes de laine ou d'or. Mais cette magie de l'habit militaire sur la femme n'était pas tout là, et le goût de la prostituée à l'endroit du soldat, goût qui s'atténue cependant aux époques de la paix et de la défaite, s'explique en tout temps par un certain nombre de causes se résumant en une seule. Pour le soldat, la prostituée reste une femme. Avec le tact des choses d'amour que possèdent les natures les plus grossières, dans le soldat qui vient s'attabler au café, la prostituée perçoit un homme venu là pour elle, pour ce qu'elle garde la créature d'amour dans sa dégradation. Elle est pour cet homme l'intérêt passionnant, la séduction captivante du lieu, et non, ainsi que pour les casquettes et les chapeaux mous, l'assaisonnement polissant d'une soirée de loupe. Le soldat l'aime avec jalousie. Le soldat partage avec elle son sou de l'État. Le soldat la promène avec orgueil. Le soldat lui écrit. Dans la démolition d'une maison de la cité, un paquet de lettres trouvées dans les décombres me fut apporté. Toutes les lettres étaient des lettres de soldats. Il est peut-être parfois brutal, le soldat. Ses caresses ressemblent à la large tape dont il flatte les flancs de sa jument. Ses fureurs amoureuses rappellent souvent les violences du rapprochement de certains animaux. Tout dans la manifestation de son être est brusque, tempétueux, exaspéré. Mais le soldat n'apporte pas dans ses amours l'ironie de l'ouvrier ou du petit bourgeois vicieux. Un certain rire gouailleur appartenant en toute propriété aux civils. Dans ses rapports avec le soldat, la fille se sent presque une maîtresse. Avec les autres, elle n'est qu'une mécanique d'amour, sur laquelle c'est souvent un plaisir de crachoter. Le soldat, dans sa vie de discipline, d'obéissance, de foi au commandement, et sans lecture, et sans l'exercice des facultés critiques de la raison, demeure plus homme de la nature que dans l'existence ouvrière des capitales. Ses passions sont plus franches, plus physiques, plus droitement aimantes. Puis on n'a pas remarqué que le soldat a très peu de contact avec la femme. Il n'est pas marié, le soldat, il n'a pas de famille, le soldat. Il n'a autour de lui ni une mère, ni une sœur, ni un jupon, et la très pure de ce jupon. La douce mêlée de l'autre sexe, répandue dans tous les intérieurs, n'existe pas pour le soldat. Son existence de caserne est la seule existence où l'homme qui n'est pas un prêtre vit toujours avec l'homme, rien qu'avec l'homme. De là, par le fait de cette absence, pendant son temps de service, de tout élément féminin, la puissance et la prise sur le soldat de la femme vers laquelle se porte à la fois la furie d'appétit sensuel et une masculine tendresse qui n'a pas d'issue. De là aussi, parmi les femmes, l'ascendant de la prostituée. Car, il faut bien le dire, pour ces paysans, sur le corps desquels la tunique a remplacé la blouse, ces créatures avec le linge fin qu'elles ont au dos, avec leurs cheveux qui sentent le jasmin, avec le rose de leurs ongles au bout de mains qui ne travaillent pas, avec l'enlacement de leurs gestes, avec la douceur chaste de leurs paroles, avec ce fondant de volupté qu'on ne trouve pas au village. Ces créatures entrevues dans le feu du gaz et des glaces, et comme servies par l'établissement dans une espèce d'apothéose, ont la fascination des grandes courtisanes et des comédiennes sur les autres hommes. Le soldat, le marin, les emportent au fond de leurs pensées, et dans les rêveries silencieuses des nuits du désert, des nuits de l'océan, dans le recueillement concentré des heures de souffrance et de misère, la vision de ces femmes lumineuses leur revient. Il les revoit embellies par une imagination qui fermente. Le délire de leur tête fabrique la petite chapelle où s'installe dans tout cerveau humain l'image d'amour ou de religion. Puis, quand il les retrouve, un peu de l'idéal et du mensonge du rêve est attaché à ses filles et leur profite auprès de ses hommes. N'y aurait-il point encore, entre la fille et le soldat, les obscures ententes et les mystérieuses chaînes qui se nouent entre les races de parias? Et toutes les propensions entraînant le soldat à aimer la prostituée sollicitent la prostituée à rendre au soldat amour pour amour. Chaque lendemain du jour de la sortie d'une fille avec son amant était rempli toute la journée des récits interminables de la partie de la veille, écoutés avec des remuements sur les chaises, comme si les camarades se payaient un avant-goût du plaisir qu'elle prendrait la quinzaine suivante. Pendant l'hiver, l'histoire était presque toujours la même. L'histoire d'une soirée au bal des deux éléphants, au bal du boulevard Montparnasse, qui avait la spécialité de donner à danser aux femmes des maisons mal famées. Mais elle était venue, il fallait entendre la fille, grisée de sa journée passée au grand air, raconter son amusement de la veille chez Bélisère, au grand peuplier, à l'île Saint-Germain. Un coin de Seine, à la berge couverte de la tripaille pourrissante des barbillons, sous un fond de grand noyer, un cabaret de plâtre aux volets peints en ocre, tout autour un grouillement d'animalité, à droite et à gauche, dans l'enchevêtrement noir de vieux sureaux, des bosquets pleins de batteries, ça et là et partout, l'aubergiste de la clientèle, le terrible Bélisère, pour servir le monde des carteilleux, les mariniers rameurs touchant le quart du coup de filet, au beau milieu de l'herbe foulée, une mécanique étrange, sur un tronc d'arbre coupé à hauteur d'homme, posées l'une sur l'autre et se croisant à angle droit, deux poutres à peine équarries, ayant à chacun de leurs bouts une tige de fer rôdissant en forme de dossier, un engin barbare à la tournure d'un instrument de supplice primitif. Ce cabaret, la fille le peignait à ses compagnes avec des mots à elle, où il y avait encore du gaudissement intérieur apporté au fond de son être par cette campagne violente. Ses paroles aussi exprimaient tumultueusement un sentiment de délivrance, la délivrance de cette main policière, éternellement suspendue sur les femmes de son espèce, délivrance qu'elle ne sentait que là, seulement là, sur ce morceau de terre entouré d'eau de toutes parts, et où les gendarmes aimaient passent risqués. Elle disait le bonheur fou qu'elle éprouvait à demi-ivre, assise accrue sur le canapé cul balançoire, et en danger de se tuer à tout moment, d'être emportée dans une rapidité qui donnait le vertige à son ivresse. Elle énumérait les poules, les canards, le mouton, le cochon, le chien de berger, dressé à sauter du peuplier dans l'eau. Elle n'en finissait pas sur sa bataille à coups d'ombrelle avec le grand dindon, l'ennemi des femmes, qui, gloussant furibondement et la crête sanguinolente, passait tout le jour à les poursuivre de son bec puissant, le grand dindon blanc, nommé Charles X. Toutes les femmes la laissaient parler, souriant déjà à la pensée d'être prochainement avec leurs soldats, chez Bélisère, de se faire poursuivre par Charles X. Seule Elisa ne témoignait ni désir ni curiosité de connaître le bal des deux éléphants, de connaître le cabaret du grand peuplier. Et il y avait un sujet d'étonnement pour toutes les filles de la maison, dans les habitudes casanières de cette compagne, amusée de coiffer Alexandrine. Tous les jours, ne prenant jamais de sortie, n'ayant pas donné jusque-là à un homme le droit de passer devant la glace, une expression qui désigne l'entrée en faveur accordée par la maîtresse d'une maison à l'amant d'une fille. L'amour chez Elisa n'avait guère été qu'un travail, un travail sans beaucoup plus d'attrait que les gagne-pains avec lesquels la pauvreté de la femme conquiert le boire et le manger. Depuis quelques années, à travers des malaises bizarres, ce travail où les sens d'Elisa ne prirent jamais qu'une part assez froide, commençait à lui coûter un peu plus tous les jours. Elisa n'était point ce qu'on appelle malade, non, mais son corps, à l'improviste, appartenait tout à coup à des sensations instantanées et fugaces dont elle n'était pas la maîtresse. Subitement, des frémissements se mettaient à s'émouvoir en elle, la renversant avec des doigts qui se crispaient quelques secondes sur le dossier de sa chaise, la laissant, après leur passage et leur fourmillement long à mourir, dans une langueur brisée, dans l'énervement d'une fatigue qui ne pouvait se tenir tranquille. Parfois, le trouble produit par ces sortes d'ondes de courant qui lui paraissaient bouillonner en elle était si grand qu'on aurait dit la vie un moment suspendue chez Elisa. Elle était prise d'envie de pleurer qui n'avait pas de motif. Elle se surprenait à pousser subitement de longs soupirs qui se terminaient par un petit cri. Parfois même, elle éprouvait un resserrement douloureux du gosier qui lui faisait une minute l'effet de se durcir dans son cou. Elle avait enfin des répulsions singulières. En ces rares sorties, quand elle se trouvait à voir à passer devant la boutique d'un épicier, soudain elle descendait du trottoir et traversait de l'autre côté de la rue. Un jour, qu'elle mangeait d'un entremets où se trouvait de la cannelle, elle avait une indigestion avec des espèces de convulsions. C'était continuellement une succession de petites agitations, de petites inquiétudes, qui ne lui paraissaient pas toujours absolument et tout à fait être des souffrances dans son corps, mais parfois lui semblaient les vertiges d'une tête en tourment. Des souffrances dont l'étrangeté apportait un peu d'effroi à la femme du peuple, troublée d'éprouver des choses qu'elle n'avait jamais ressenties ou vues dans ses maladies, dans les maladies des autres. Aussi était-elle chagrine, et quand elle n'était pas très triste, elle ne pouvait toutefois se débarrasser d'un certain mécontentement de tout et de l'anxiété d'imagination absurde. Elisa ne se disait pas malade, elle se disait ennuyée. Se servant de ce terme indéfini, qui dans le peuple ne signifie pas le léger ennui du monde, mais indique chez l'être qui l'emploie un état vague de souffrance, de troubles occultes de l'organisation, de tristesse morale, une disposition hypochondriaque de l'âme blessée à voir la vie en noir. Chez la fille d'amour, atteinte, sans qu'elle le sût, aux endroits secrets de son sexe, il y avait certains jours où, en dépit de sa volonté et de la violence qu'elle se faisait, il y avait, de la part de son corps, une répugnance insurmontable et comme un soulèvement de dégoût et d'horreur pour sa tâche amoureuse dans la maison. Chose rare dans une telle profession, Elisa, surtout depuis sa fréquentation avec Alexandrine, était devenue un sujet en lequel avait lieu une série de phénomènes hystériques appartenant à cet état maladif de la femme qui n'a pas encore de nom mais qu'on pourrait appeler l'horreur physique de l'homme. Dans la lutte douloureuse et journalière des exigences de sa vie, avec le rébellionnement de ses os, de sa chair, il venait vaguement à la prostituée l'idée de quitter le métier. Et peut-être l'eût-elle déjà fait, sans cette dette, sans cette chaîne au moyen de laquelle les maîtresses de maison ont l'art de retenir à tout jamais dans la prostitution les femmes tentées de l'abandonner. Elisa vivait donc ainsi, souffrant tout ce que pouvait faire souffrir un pareil état physique dans une semblable profession, lorsqu'un soir, un soldat de ligne monta dans sa chambre. Il revint, et souvent, et chaque fois qu'il revenait, Il apportait à Elisa un bouquet d'un sou. Un bouquet à une prostituée comme elle. Des fleurs, mais quel homme avait jamais songé à lui en offrir? Et là où elle était? Pourquoi et comment, du don de ces méchants petits bouquets, l'amour naquit-il chez cette femme qui n'avait jamais aimé? Cela fut cependant, et quand Elisa se mit à aimer, elle aima avec la passion que les filles mettent dans l'amour. Elle aima avec les tendresses amassées dans un vieux cœur qui n'a point encore aimé. Elle aima avec l'aliénation d'un cerveau comme frappé d'une folie de bonheur. Elle aima avec des délicatesses qu'on ne suppose pas exister chez ces créatures. Elle aima avec les douleurs révélées dans cette phrase d'une fille à un inspecteur de police. M'attacher à un homme, moi, jamais. Il me semble que le contact de ma peau le souillerait. Car, chez cette femme ayant par moments le vomissement de l'amour physique, c'était un supplice de se livrer au petit homme chéri, ainsi qu'au passant auquel elle se vendait, de lui apporter dans l'acte charnel les restes de tous, de le salir enfin, comme disait cet autre, de la publicité de son contact. Elle eût voulu l'aimer, être aimée de lui, rien qu'avec des lèvres qui embrasseraient toujours. Et continuellement, sa tête, dans les lancements purs d'un rêve chaste, forgeait entre elle le lignard aux fleurs, des amours avec des tendresses ignorantes, avec des caresses ingénues, avec des baisers innocents et doux, baisers qu'elle se rappelait avoir reçus autrefois, toute petite fille d'un amoureux de son âge. Elle avait honte vraiment de dire cela à un soldat. Mais bien souvent, la révolte secrète de son corps, se dérobant aux ardeurs amoureuses de son amant, se traduisait en des résistances emportées, rageuses, toutes voisines des coups, et qui paraissaient singulières à cet homme venant de la part de cette femme qu'il savait, qu'il sentait l'adorer. Dès lors, il n'y eut plus dans la pensée d'Elisa que l'attente de son jour de sortie avec son soldat. Pendant des heures avant l'une de ses sorties, Elisa parlait à ses compagnes, avec une effusion fiévreuse et bavarde, du plaisir qu'elle allait avoir à passer toute une journée avec son petit homme chéri, de la fête qu'elle se faisait de se promener avec lui dans la campagne, bien loin dans la campagne. Il y avait un vieux baromètre chez madame. La veille, elle montait deux ou trois fois dans sa chambre pour voir si le capucin se décidait à ôter son capuchon. Le matin, elle s'habillait longuement, et cependant se trouvait prête longtemps avant que son amant arrivât. Elle partait enfin sous les regards de toutes les femmes de la maison, la suivant de l'œil, derrière les persiennes fermées. Une main, la paume appuyée à plat sur sa hanche droite et les cinq doigts en serrant la moitié de sa taille mince, Elisa marchait avec un coquet hanchement à gauche, une ondulation des reins, qui à chaque pas laissait apercevoir un rien de la ceinture rouge attachant en dessous sa jupe lâche. Elle trottinait ainsi, un peu en avant de l'homme, la bouche et le regard soulevés, retournés vers son visage. Elle était nue-tête, le chignon serré dans un filet que traversaient les petites boules d'un grand peigne noir, tandis que le reste de ses cheveux, laborieusement frisés et hérissés, lui retombait sur le front comme une touffe d'herbe. Elle avait un caraco de laine noire avec une bordure d'astrakan à l'entournure des manches, et sa jupe de couleur balayait la poussière de grands effilés appliqués sur l'étoffe ainsi que des volants. Un petit châle d'enfant de laine blanche aux mailles tricotées se croisait autour de son cou, attaché par une broche d'argent où l'on voyait une pensée en émail. Et elle tenait de sa main restée libre, par une habitude particulière aux femmes de maison, un petit panier de paille noire. Dans cette toilette, malgré les taches de rousseur si pressées sur son blanc visage qu'elle le tachait comme des maculatures d'un fruit pierreux, Elisa semblait cependant jolie, d'une beauté où se mêlait au rude charme canaille de la barrière la mignonnesse de son nez et de sa bouche, le blond soyeusement ardent de ses cheveux, le bleu de ses yeux restés comme au jour de son enfance, angéliquement clair. Le soir, quand Elisa rentrait à la nuit tombée, elle se glissait dans la cuisine, elle se sentait froid et demandait, la journée avait été cependant très chaude, qu'on lui allumât un coffret. Elle restait silencieuse, les mains tendues vers la flambée qui les faisait transparentes. Et Marie, coup de sabre, descendue dans le moment, cherchait une cafetière d'eau chaude, regardant par hasard les mains d'Elisa, remarquait que sous les ongles, il y avait une petite ligne rouge comme aux ongles des femmes qui ont fait des confitures de groseille dans la journée. Déposition du témoin.